La scène se passe quelque part un jour de sabbat dans une synagogue. Cette scène prend place dans l'agenda d'une société qui est rythmée par le jour du sabbat. Ce temps pour Dieu, ce temps sacré du repos. Dans cette journée sans surprise, où tout est écrit à l'avance, où tout est à sa place, il va se passer quelque chose d'inattendu, de scandaleux. Dieu va faire irruption dans le temps des hommes. Cette page de l'Évangile nous interroge d'entrée sur notre rapport au temps, à la façon de le penser, oui, de l'organiser, de le vivre. Ce récit nous interroge sur la place que Dieu prend dans notre temps, ou celle que nous lui accordons. Le temps pour Dieu est-il sagement synchronisé à nos agendas, comme notre culte ce matin l'est tout à fait, diffusant de manière tranquille, intéressante, constructive, son influence sur nos vies. Mais le temps de Dieu fait-il au contraire irruption dans nos vies? Fait-il violence à nos habitudes? Vient-il tout bousculer, tout redéfinir? Jésus s'invite dans nos vies, il ne faut pas en douter. Faut-il lui accorder, c'est là la question, une place dans les interstices, les temps morts de nos agendas, s'il en reste? Ou au contraire, faut-il le laisser prendre la place qu'il veut, lui, au milieu de ce qui remplit nos agendas? Ah, nos agendas. Ils sont remplis comme des doodles, on ne dit plus comme des armoires en fait, hein. Vous saviez ça? Même l'agenda des retraités, c'est un enfer. Ils sont numériques pour beaucoup de personnes aujourd'hui, toujours plus conviviaux. Ils sont censés nous faciliter la vie. Oui, à ce qu'on dit, à ce qu'ils disent. Et puis, il faut dire aussi que nos agendas se complexifie beaucoup. Parce que pour beaucoup de gens aujourd'hui, la frontière entre le temps du travail et le temps du repos, la vie de famille ou la vie professionnelle, est devenue, à cause de ces agendas numériques en particulier, est devenue assez floue. Le stress, la pression ne s'arrête jamais vraiment. Vous êtes en repos, mais déjà, ping ! Quelque chose s'allume sur votre agenda pour vous dire que lundi matin, ce sera fini et que vous avez rendez-vous avec... Vous êtes en repos, mais non, ding, ça fait comme ça sur vos agendas. La pression ne s'arrête jamais. Et évidemment, de nouvelles pathologies émergent dans notre société. Celui dont on parle le plus, c'est le fameux burn-out. On ne sait pas trop le traduire en français. L'épuisement psychologique. Certaines entreprises qui ont bien pris la mesure de l'affaire mettent en place des antidotes, comme la pause sportive. Ça, c'est super sympa. Vous êtes déjà crevé intellectuellement, puis on vous met sur un tapis pendant entre midi et deux. Il y a la méditation. Il y a des coachs qui viennent pour vous faire respirer. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. C'est quelque chose qui est travaillé actuellement. En fait, l'idée, c'est de cloisonner notre temps. Nos agendas marchent comme ça. Pour s'assurer des plages de tranquillité, oui. Des temps de repos absolu, oui. On cherche à dégager du temps hors du temps, à sanctuariser, ça aussi c'est un mot très à la mode, à sanctuariser du temps pour soi ou pour la famille. Ailleurs, les agences de voyage vous font des promesses incroyables. Ailleurs et autrement. Et on nous fait croire, c'est là où c'est génial, qu'une fois que vous aurez consommé votre repos, vous allez revenir en forme, entendez, plus performant. Alors sur le moment, oui, le repos repose. On peut l'espérer. Mais de retour au travail, les choses se sont tellement accumulées qu'il faut courir deux fois plus vite pour rattraper le temps. C'est un cercle vicieux. Nos agendas cloisonnent aussi la vie avec Dieu. À côté de la vie professionnelle, de la vie de famille, à côté des loisirs, à côté de tout ce qu'il y a à faire, il y a la vie avec Dieu. Il faut qu'elle trouve une place. Ah, on aimerait qu'elle soit plus importante. Mais enfin, on se débrouille, il y a un petit moment pour la lecture biblique, la prière, un temps de silence aussi peut-être, le temps du culte ce matin que vous avez inscrit dans vos agendas, sœurs et frères, c'est beau. Un temps pour Dieu, bien net, bien calé. Et ça, c'est exactement ce que demande dans notre récit le chef de la synagogue. Et il y a 6 jours pendant lesquels il faut faire ses affaires. Venez donc vous faire soigner ces jours-là. Pas le jour du sabbat. Bon, le chef, il n'a rien contre une bonne guérison, hein, c'est pas ce qu'il dit. Pas pendant le sabbat, voilà son problème. Chaque chose doit être à sa place. Le sacré avec le sacré, le profane avec le profane, 6 jours pour bosser, 1 jour pour Dieu. C'est pas rien quand même, hein ? 1 jour pour Dieu. Ça me rappelle notre chauffeur de taxi au Liban. Et il était un type extraordinaire. Quand je lui demandais en plein ramadan, il faisait chaud là-bas, hein, pendant les périodes où on était, en tout cas c'était l'été. Et je lui demandais si la chaleur n'était pas trop éprouvante. Il me répondait, monsieur le pasteur, 11 mois de l'année pour mes affaires, 1 mois pour Dieu, c'est pas grand-chose. Je lui dois bien ça. À bien y regarder, le chef de la synagogue a un problème. On dirait qu'il est à côté de ce qui se joue. Il est complètement hors sol, dans un temps qui n'existe pas, le sien. D'abord, le chef s'adresse à la foule qui n'a posé aucune question. C'est Jésus qui est acteur dans ce récit, pas la foule. C'est lui qui parle dans la synagogue à ce moment-là, pas la foule. Et puis, le chef de la synagogue se trompe aussi de procès. Il reproche qu'on vienne se faire guérir un jour de sabbat. Mais personne n'est venu se faire guérir. Personne. On n'est pas à Lourdes ce jour-là. Les gens sont là comme chaque sabbat. À la synagogue, parce que depuis tout petit, on fait ça. Point. Même la femme infirme n'est pas venue pour chercher une guérison. C'est Jésus. Lui seul qui a pris l'initiative de cette rencontre et de ses conséquences, de cette guérison. Elle n'a rien demandé, la dame pliée en deux. Et les exhortations du chef, que le chef de la synagogue tire de son agenda religieux à lui, elles tombent complètement à côté de la vie des gens. C'est ça qui se passe dans cette synagogue ce jour-là. Et à l'opposé, la parole et l'action de Jésus apparaissent comme un événement extraordinaire. Un événement qui peut être d'ailleurs, et j'aimerais insister là-dessus ce matin, qui peut être interprété de 2 manières. Premièrement, comme une irruption fracassante du temps de Dieu dans le temps de la vie des gens, et de cette femme en particulier. Il se passe là quelque chose de totalement inattendu, de fou, de bouleversant, une sorte de défraction divine, vous voyez, dans l'agenda de ceux qui sont sagement assis, comme d'habitude. Ça, c'est la première lecture. Mais on peut aussi comprendre ce qui se joue ici comme la simple présence de Dieu au quotidien, dans la vie des croyants. Une présence fidèle, tranquille, qui agit imperceptiblement, mais réellement, jour après jour, sur nos trajectoires de vie. Alors je voudrais d'abord en venir à la lecture irruption du temps de Dieu dans cette synagogue. C'est peut-être ce qui frappe le plus, hein, à la première lecture. Bien sûr, vous avez le temps ordinaire, l'agenda religieux de ce sabbat, qui est complètement renversé, perturbé par ce que Jésus va faire et dire. Et Jésus le sait parfaitement, ce n'est pas la première fois qu'il transgresse dans l'évangile de Luc le sabbat, chaque fois il y a des tonnes de problèmes qui lui arrivent. Hein. Il sait qu'il transgresse le sacré et que ça va réagir en face. Mais ce qui est encore plus spectaculaire, c'est ce que Jésus va réaliser dans la vie de cette femme. Cette femme, vous l'avez vu, a le dos plié. Elle ne peut plus regarder personne dans les yeux, cette femme. Son seul vis-à-vis depuis 18 ans, c'est le trottoir. Et de ce fait, elle a perdu une part de son humanité. Homo erectus, hein, c'est comme ça qu'on s'appelle, je crois, hein, par rapport au reste des espèces. C'est-à-dire debout, capable de regarder en face. Sa vie est pliée. Et voilà qu'elle est remise droite. Littéralement, dans le texte, j'aime bien, c'est elle est rectifiée. Elle est pliée en deux, elle est reconstruite, on pourrait dire aussi, d'un seul coup, paf, d'un seul. Comme si la corde là, qui la retenait, pliée au sol, pliée en deux, avait été coupée net comme ça avec un ciseau, ch'toc, et qu'elle s'était redressée. Il y a un avant, un après pour cette femme. Il y a deux actions. Elle est libérée et elle est recréée. Et voyez que Dieu n'est pas ici à côté de la vie. Il s'invite dans la vie de cette femme, dans ce qu'elle a de plus concret, de plus réel. Il s'invite quelquefois de manière puissante, immédiate, au cœur de nos enjeux de vie, les vrais, nos combats, comme on dit, au cœur des urgences de notre vie. Il s'y trouve. Ça, c'est la manière irruptive de Dieu, sa manière de faire, quelquefois. Mais Dieu peut décider aussi d'agir tout autrement. C'est ce qu'on peut appeler la manière douce, vous voyez ? C'est par capillarité, ça. Vous voyez, la capillarité, je ne sais pas si je fais le bon geste. On va dire tout au long de la marche de la vie ordinaire. Regardons bien la scène. Jésus commence par voir. En bon rabbin, il est assis devant, hein, sur une chaise. Il voit. Il voit la femme courbée. Pourtant, elle est loin de lui. Elle se trouve à la place des femmes, c'est-à-dire tout au fond de la synagogue. Et en plus, elle est pliée en deux. Elle est presque invisible, cette femme. Mais Jésus la voit. Ensuite, il s'adresse à elle. Et là, vous voyez qu'il quitte l'enseignement général, à tous, dans la synagogue, hein, une parole pour elle seule. Et troisième phase, il la touche. Il pose ses mains sur elle. Ce qui présuppose qu'il a traversé la synagogue, ou qu'il l'a appelée, on ne sait pas, ce n'est pas dit. Il y a un déplacement, en tout cas, c'est obligatoire. Il se tient auprès d'elle maintenant. Et on peut voir que cette approche de Jésus se fait pas à pas. Comme je l'ai décrit, comme le texte le dit. Et Jésus ne s'occupe pas exclusivement de la femme. Hein. Il se tourne aussi vers le chef de la synagogue. Il a quelque chose à lui dire. Alors c'est un peu rugueux. Hein. Mais il va le rejoindre. Et ce que fait Jésus, toujours, il rejoint les gens sur leur terrain. Il ne les appelle pas à venir sur le sien. Le terrain du chef de la synagogue, c'est la pratique religieuse, c'est l'observance stricte du sabbat. Il ne rigole pas là-dessus, le chef. Et Jésus ne va pas lui faire un cours de théologie compliquée, le sabbat, tu sais, ça peut s'interpréter comme ça, regarde les passages bibliques, etc. Non. Il lui dit, le jour du sabbat, vous faites boire vos bœufs et vos ânes, non ? Et cette femme, fille d'Abraham, fallait pas la détacher ? Elle aussi ? Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu qu'on peut enfermer dans la case religion de notre agenda. Il est le Dieu qui vient à la rencontre de toute existence, de toute notre existence. Il s'y invite selon la méthode qui lui semble la plus adaptée. Quelquefois même dans une même vie, de manière fracassante, de manière irruptive. Quelquefois, peut-être le plus souvent, dans la mienne en tout cas, de manière tranquille, répétitive, imperceptible mais agissante. Dieu, en fait, synchronise son agenda sur le mien, le nôtre. Il se fait compagnon de nos routines, de nos banalités. Il nous rejoint là où nous sommes. Et quand ça fait ping sur votre agenda et qu'il y a écrit lire la Bible, ben c'est lui qui vous le dit. Ce n'est pas juste l'agenda. Avez-vous remarqué que c'est Jésus qui prend toutes les initiatives ici ? Et avez-vous remarqué que tout ce qui est dit à propos de cette femme est au passif ? Elle est possédée par Satan, le Satan, depuis 18 ans. Elle est attachée, disent d'autres traductions, liée. Elle est toute courbée. Elle est rencontrée par Jésus. Elle est déliée. Elle est redressée. Elle redevint droite, c'est pas ça qu'il y a écrit dans le texte. C'est elle est rectifiée, redressée. Le seul moment où elle devient active, personne ne lui a rien demandé, c'est elle, c'est sa décision. Eh ben, c'est pour dire merci et pour laisser exploser sa joie dans la synagogue. Elle se mit à rendre gloire à Dieu. Cette action de Jésus est si puissante ici que Luc ne dit plus Jésus, il dit, vous l'avez remarqué ça ? Le Seigneur. Mais cette démonstration de puissance ne serait jamais arrivée. Jamais. S'il n'y avait pas eu au départ la routine. La routine du rassemblement à la synagogue. L'observance rituelle du sabbat. Les habitudes de vie. Dieu ne vient pas. Et d'ailleurs, on peut dire aussi les habitudes de vie de cette femme courbée. Elle vient à la synagogue. Elle aurait pu rester chez elle en disant « Pourquoi je suis pliante ?» Non. Elle aussi a ses routines. Avez-vous remarqué que c'est Jésus qui prend toutes ses initiatives ? Dieu ne vient pas, en fait, nous extraire de notre quotidien pour recréer un monde ailleurs, un monde parfait, parallèle, tout beau, tout neuf. Non, il vient, il s'invite au cœur de notre quotidien le plus banal pour jeter sur lui un éclairage nouveau, pour lui révéler une force inconnue. C'est votre vie ordinaire, routinière, qui intéresse le Seigneur. Frères et sœurs, pas la vie fantasmée du chrétien parfait que nous imaginons quelquefois. Celle-là, il s'en fiche. Il reste à savoir maintenant comment accueillir la présence de Dieu dans ce quotidien. C'est une vraie question, ça. Parce que oui, c'est bien beau la guérison des autres. On est tous là à applaudir dans la synagogue, C'est bien beau. Mais qu'en est-il de la mienne, de guérison? Doit-on s'attendre à une irruption fracassante de Dieu ou bien à une action diffuse? J'allais dire homéopathique, mais bon, ça nous fait entrer dans un débat un peu compliqué. Une action à long terme, en tout cas. Mais les deux, ne nous coupons pas de l'une ou de l'autre expérience. Si Dieu s'invite chez vous, vous découvrirez ce qu'il entend y réaliser et comment il veut procéder. Nous devons simplement, humblement, accepter de vivre notre quotidien, nos routines, au travail, à la fac, au culte, chez les amis. Mais avec cette petite veilleuse toujours allumée, cette attente, cette foi que Jésus nous donne là, partout, rendez-vous. Tenons-nous prêts pour ce moment-là, ce rendez-vous avec lui. Alors, ce rendez-vous, quand il arrive, peut vous faire l'effet d'un vent violent, hein, qui va vous plaquer au sol, puis ensuite vous enlever vers le ciel, un truc, et vous témoignerez de ça. Au contraire, ça peut vous faire l'effet d'une brise légère, imperceptible. Peu importe le comment. Mais à un moment donné, chacun se découvrira différent, libéré, rectifié, guéri. Chacun témoignera et glorifiera le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Et si on vous donnait la parole maintenant, à tour de rôle, il y aurait pour des journées à écouter ce qui a été déjà fait, n'est-ce pas? Mais il y a encore des choses à faire. Nous sommes réunis, comme tous les dimanches, dans notre lieu de culte, dans notre petite et sympathique routine cultuelle. Eh bien, il est possible qu'il se passe quelque chose de fracassant, de décisif, de fondateur, ce matin, pour l'un ou l'autre d'entre vous. Il est possible aussi que ce moment s'ajoute simplement à tous ceux qui ont précédé, à tous les cultes de l'année, et qu'imperceptiblement, dans ce travail de longue haleine, Dieu réalise dans nos vies ce qu'il a envie. Qu'importe. Une chose est sûre, le Seigneur est à l'œuvre, et c'est là l'essentiel. Amen.